VOA Afrique, le monde aujourd'hui, à Washington.
Bonjour à toutes et à tous, le monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du lundi 18 avril 2022, en direct de Washington, Idrissa Seboudia
et Nanit Talani.
Pour commencer les titres.
Au Mali, l'armée dit avoir tué plusieurs terroristes, dont des chefs dépêchés par Iyad Agghali.
En République démocratique du Congo, triste fête de Pâques pour les déplacés du conflit avec le M23 ce week-end dans le Nord Kivu.
L'église anglicane fustige le projet d'envoyer au Rwanda les demandeurs d'asile arrivés illégalement au Royaume-Uni.
En Afrique du Sud, accalmie après une semaine des pires inondations dans le pays, dont le bilan s'est alourdi à 443 morts.
Les Russes veulent détruire le Donbass, accuse Kiev qui assure le défendre jusqu'au bout.
En Chine, premier décès annoncé officiellement à Shanghai depuis le début du confinement fin mars en raison du Covid-19.
Ne manquez pas notre page sport avec Élisée Oupatine ainsi que la Minute Éco.
Pour l'instant, le journal.
Au Mali, l'armée affirme dans un communiqué avoir tué plusieurs terroristes, dont des chefs dépêchés par Iyad Agghali, pour resserrer les rangs après l'opération militaire de Moura, qui a fait plus de 200 morts du 27 au 30 mars dernier. Davantage de détails avec notre correspondant Mohamed Danioko.
Le 14 avril 2022, dans la forêt de Ganguel, à environ 10 km de la commune rurale de Moura, les forces armées maliennes, par deux frappes aériennes, ont neutralisé une douzaine de terroristes, dont des cadres du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, nous apprend le communiqué de l'armée publié le 16 avril. Cette opération, qualifiée de consolidation par l'armée, a selon elle neutralisé Samir Al-Bouhan, un terroriste franco-tunisien qui avait été dépêché par Iyad Agghali avec pour mission de remobiliser les troupes de Youarou, Tenenku, Djené, Ganguel et Mayatake après leur lourde perte de Moura. L'armée dit avoir agi sur la base de renseignements techniques très précis. Mohamed Danioko pour VOA Afrique, Bamako.
En République démocratique du Congo, triste fête de Pâques pour les déplacés du conflit avec le M23 ce week-end dans le Nord Kivu, une province très affectée par les combats et où l'on attend la visite du pape François en janvier. Le point avec Gaby Dorsil.
En ce week-end de Pâques, dans un site de déplacés de Rutshuru, dans l'est de la République démocratique du Congo, Stéphanie Aziza, 25 ans, n'avait pas le cœur à la fête. Depuis les récents combats entre l'armée et les rebelles du M23 dans la province du Nord Kivu, elle est sans nouvelles d'un de ses trois enfants, perdu dans le chaos de la fuite. Fin mars, dans la région de Rutshuru, le mouvement du 23 mars, une ancienne rébellion Tutsi réapparue en fin d'année dernière, s'est emparée de plusieurs collines dont les habitants se sont enfuis vers l'Ouganda. Les combats violents ont duré deux jours, se sont arrêtés une semaine et ont repris. Depuis quelques jours, c'est de nouveau l'accalmie, mais la tension est palpable. Les militaires sont sur les dents. Ailleurs dans le territoire, les célébrations ont été réduites. Les fidèles ont dû renoncer aux traditionnelles veillées du samedi soir à cause de l'insécurité et de l'état de siège en vigueur depuis près d'un an dans le Nord Kivu et la province voisine d'Ituri qui a instauré un couvre-feu. L'est de la RDC est en proie depuis plus d'un quart de siècle aux violences de multiples groupes armés. La venue du pape François début juillet à Goma, le chef-lieu du Nord Kivu, est présentée par l'Église catholique comme un signe de réconfort et de paix.
Les chefs spirituels de l'église anglicane s'en sont vivement pris hier dimanche à l'accord hautement controversé entre le gouvernement de Boris Johnson et Kigali visant à envoyer au Rwanda les demandeurs d'asile arrivés illégalement au Royaume-Uni. Les précisions de Mouamadou Oumfa.
Dans son serment de Pâques, l'archevêque de Canterbury, Justin Welby, a estimé qu'envoyer des demandeurs d'asile à l'étranger pose de graves questions éthiques. L'archevêque de York, Stephen Cottrell, a quant à lui jugé tellement déprimant et désolant de voir que les demandeurs d'asile qui fuient la guerre, la famine et l'oppression ne seront pas traités avec la dignité et la compassion qui sont le droit de chaque être humain. « Nous pouvons faire mieux que ça », a-t-il lancé. Le ministère de l'Intérieur met en avant la crise migratoire d'une ampleur sans précédent à laquelle le monde est confronté, selon un porte-parole soulignant les changements nécessaires pour empêcher, je cite, « les ignobles passeurs de mettre la vie des gens en danger et pour réparer notre système d'asile cassé ». L'accord annoncé jeudi fait l'objet de vives critiques, notamment de la part du Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés et des ONG. Il vise à dissuader les dangereuses traversées de la Manche en pleine explosion malgré les promesses du Brexit de mieux contrôler les frontières.
La baisse des précipitations en Afrique du Sud a permis une accalmie dimanche après une semaine d'inondations sur la côte est, les pires jamais enregistrées dans le pays et qui ont fait 443 morts et entraîné de vastes destructions, principalement dans la région de Durban sur la côte est. Des familles ont été décimées, des enfants sont morts noyés dans des crues ou ensevelis dans des coulées de boue. Une soixantaine de personnes sont encore portées disparues.
Au moins deux secouristes ont péri en tentant de repêcher des corps dans une rivière, a déploré la police dans un communiqué. Près de 4000 maisons ont été détruites, plus de 13500 endommagées. De nombreux hôpitaux ont été dégradés et plus de 550 écoles touchées. Les zones restent encore inaccessibles à cause des routes et des ponts coupés. Des milliards seront nécessaires pour reconstruire la province après cette catastrophe, a déclaré un responsable local.
Aucune fuite détectée, des plongeurs ont inspecté dimanche la coque du pétrolier qui a coulé la veille près de Gabès au large des côtes sud-est de la Tunisie et ils n'ont constaté aucun écoulement de sa cargaison de 750 tonnes de gazole, ont indiqué les autorités tunisiennes.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les soldats ukrainiens retranchés dans les décombres du port de Mariupol ont résisté hier à un ultimatum de la Russie leur demandant de déposer les armes. Moscou assure avoir le quasi-contrôle des lieux, ce qui constituerait sa plus grosse prise de guerre en près de deux mois de conflit. Jean-Roger Bion.
La ville n'est toujours pas tombée, a déclaré le premier ministre ukrainien Denis Shmyhal à la chaîne de télévision américaine ABC, ajoutant que les soldats ukrainiens encore sur place poursuivaient le combat et contrôlaient toujours certaines parties de l'agglomération. La Russie a revendiqué samedi le contrôle des parties urbaines de Mariupol et demandé aux combattants de déposer les armes dès dimanche à l'aube. Ailleurs en Ukraine, il a été fait état dimanche de plusieurs autres frappes sporadiques russes, des tirs d'artillerie autour de Kharkiv. La deuxième ville d'Ukraine ont fait 5 morts et 13 blessés dans le centre-ville, a rapporté la chaîne publique Suspiln, citant les autorités de santé locales. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a fait savoir que la mort de ses soldats risquait de mettre fin aux efforts de paix. Dans sa bénédiction pascale Urbi et Orbi, le pape François a déploré une Pâque de guerre, plaidé pour un arrêt du bain de sang et implicitement critiqué la Russie.
Le président Zelensky a également accusé la Russie de vouloir détruire toute la région orientale du Donbass, promettant que tout serait fait pour la défendre, à commencer par le port stratégique de Mariupol, où les militaires encerclés sont appelés à combattre jusqu'au bout. Les soldats russes se préparent à une offensive dans l'est de notre pays dans un avenir proche, a-t-il encore averti.
Le gouvernement de coalition du premier ministre israélien Naftali Bennett apparaissait fragilisé hier soir après une nouvelle vague de violence ayant fait plus de 20 blessés dans et autour de l'esplanade des mosquées à Jérusalem. Le parti arabe israélien Ra'am a suspendu son soutien à la coalition de M. Bennett qui avait rallié en juin dernier des partis de droite, de gauche, de centre et pour la première fois de l'histoire d'Israël une formation arabe pour chasser du pouvoir Benjamin Netanyahou.
Selon de nouveaux bilans communiqués hier par des responsables afghans, les tirs de l'armée pakistanaise contre l'est de l'Afghanistan samedi ont fait une cinquantaine de morts. Le Pakistan exigeant de Kaboul des mesures sévères contre les groupes armés qui mènent des attaques depuis le sol afghan à travers une frontière notoirement poreuse.
La Chine fait état ce lundi de 3 morts du Covid-19 à Shanghai, les premiers annoncés officiellement depuis le début du confinement fin mars dans la capitale économique chinoise.
La Minute Éco, Mohamedou Humfa.
Au Congo-Brazzaville, les gestionnaires du port de Pointe-Noire rassurent sur le maintien des emplois après l'annonce de la cession des activités logistiques en Afrique du groupe français Bolloré à l'armateur italo-suisse MSC. MSC va reprendre les actions de Congo Terminal, filiale congolaise de Bolloré, qui compte 900 agents et a obtenu en 2009 jusqu'en 2030 la concession du port de Pointe-Noire, le plus grand en eau profonde du golfe de Guinée. Air Côte d'Ivoire prévoit l'ouverture de nouvelles liaisons dans les prochains mois, dont la ligne Abidjan-Bissau et Abidjan-Johannesburg via Kinshasa. Air Côte d'Ivoire, qui a stabilisé ses finances et attend la mise en œuvre d'un plan de compétitivité validé par la présidence ivoirienne, nourrit surtout l'ambition de rallier Paris. Le projet a été validé par son conseil d'administration, mais selon Jeune Afrique, les premiers vols vers la France ne sont pas prévus avant 2024. En Libye, la Compagnie nationale de pétrole a annoncé dimanche la suspension de la production sur le champ pétrolier Alfil, situé à 750 km au sud-ouest de Tripoli, après que des individus ont empêché les employés d'y accéder. Quelques 70 000 barils y sont produits habituellement chaque jour, mais la production fluctue au gré des tensions sur le terrain.
Merci Mohamedou. À présent, les sports avec Élisée Oumpatine. Élisée, bonjour.
Bonjour Idrissa et bonjour à tous.
On démarre avec du football et les quarts de finale aller des interclubs de la CAF.
Oui, en Ligue des Champions, victoire polémique pour le tenant du titre Al Ahly, vainqueur 2-1 des Marocains du Raja de Casablanca. Les Égyptiens gratifiés d'un pénalty très limite pour ne pas dire inexistant. La revanche par contre pour le second club de Casablanca, le Wydad, qui est allé battre 1-0 les Algériens du CR Belouizdad. Succès également des Angolais du Petro Atlético qui recevaient les Sud-Africains des Mamelodi Sundowns, score 2-1. Pas de but par contre, 0-0 entre l'Entente de Sétif et l'Espérance de Tunis.
Quart de finale aller aussi en Coupe de la Confédération et Simba s'en sort à domicile.
Tout à fait. Les Tanzaniens ont réalisé le service minimum 1-0 devant les Sud-Africains d'Orlando Pirates. But inscrit sur pénalty par Saloum Kabombé. Victoire également 2-1 des Égyptiens d'Al Masri, pourtant réduit à 9 face aux Marocains de Berkane. L'autre club égyptien, FC Pyramide, a été lui accroché à domicile par le tout-puissant Mazembe de Lulumbashi. Et puis, pas de vainqueur dans le duel libyen entre Al Ittihad et Ali Tripoli. Les matchs retour de ces deux compétitions ont lieu en fin de semaine.
Des stades en coulisses et en Guinée, on en sait un peu plus sur les candidats pour le poste de sélectionneur du CIL.
Effectivement, ouverts uniquement aux techniciens guinéens, ils seront finalement 4 à déposer leur dossier, dont 2 anciens. Kaba Diawara, qui dirigeait déjà la sélection à la dernière CAN au Cameroun, et Kanfori Lape Bangoura en poste entre 2016 et 2018. Les autres candidats, Molaï Souma, l'ancien capitaine de la Guinée à la CAN de 2004 en Tunisie, et enfin Moussa Théa, pas trop connu, mais détenteur de la licence UEFA. Il a entraîné en Angleterre. Une commission se réunira mercredi pour décider de qui sera le prochain sélectionneur du CIL national.
Basketball Ligue Africa, la suite des matchs de la conférence Nil au Caire.
Oui, tournoi zonal qualificatif pour la phase finale prévue à Kigali au Rwanda en mai prochain. Plus que 2 journées pour connaître les 4 qualifiés et c'est déjà acquis pour le Zamalek, auteur de 4 victoires en autant de matchs. La dernière 101-92 contre les Congolais d'Espoir Foukache. Les Angolais du Petro Atlético y seront aussi. Troisième victoire face aux Camerounais du FAB 73-60. Enfin, la NBA est avec vous Idrissa, les résultats de la nuit.
La NBA, où se jouent actuellement les playoffs, Boston, grâce à Jason Tatum au buzzer, a pris l'avantage sur Brooklyn 115-114. Le champion en titre Milwaukee a battu 93-86 Chicago. Miami, finaliste en 2020, a battu 115-91 les Hawks d'Atlanta.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sebudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Niger, en session ordinaire depuis quelques jours, le Parlement va débattre sur proposition du gouvernement de la présence des forces étrangères engagées à ses côtés dans la lutte contre le terrorisme. Certains Nigériens estiment illégale et inopérante cette présence. Alors, que pensent en général les Nigériens de l'issue de cette discussion entre leurs représentants? Des réactions recueillies par notre correspondant à Niamey, Abdulrazak Idrissa.
La date de discussion au Parlement n'est pas encore fixée. Interrogés sur ce que pourra être le vote des députés, les citoyens ont des avis divergents sur le sujet.
Les députés sont élus pour représenter le peuple, alors qu'on a constaté une manipulation ou une influence extérieure, parce que ce n'est pas au président de la République de prendre une décision. Sauf si cette dernière a été adoptée par l'Assemblée nationale. Nous interpellons donc l'ensemble des députés élus par le peuple.
Étant un élu, quand on élit, tu dois représenter tout un peuple, tu dois représenter toute une nation. Donc je pense que tu dois essayer de défendre ces peuples-là, vaille que vaille, coûte que coûte. Certes, il y a beaucoup qui se cachent derrière leur couleur politique, et or, c'est pas bon. Quand tu es élu et on t'amène à l'Assemblée nationale, tu ne dois pas défendre, ta couleur politique.
Moi, je pense bien que vraiment nos représentants. Vraiment, ils sont représentatifs, donc on devait leur faire confiance et puis essayer aussi d'attirer leur attention un peu par rapport à ça aussi. Parce que souvent, bon, je ne peux pas dire que tout le monde est bon, mais quand même, c'est que je suis certain que moi, c'est qu'au moins, si nous avons nos élites qui sont en face de nous, moi, je pense bien qu'ils sont capables de défendre l'intérêt national de ce pays-là.
Les organisations de la société civile qui ont de tout temps dénoncé la présence militaire française, notamment au Niger, parce que pas soumise à un accord préalable de la représentation nationale, estiment que c'est l'occasion pour les élus du peuple d'exprimer la position de ce dernier. Quel est le rejet de cette présence, selon Michael Zodi, du mouvement Tournant la page Niger?
Je pense bien que nos députés nationaux doivent réfléchir et doivent comprendre qu'ils sont là-bas au nom du peuple. Et ils doivent demander des comptes au gouvernement pour savoir quels sont les contenus de ces accords-là. Comment ces accords-là se présentent? Nous, de notre côté, au niveau de la société, au niveau de notre organisation Tournant la page, nous le savons que ces forces sont inutiles sur notre territoire. Et nous continuons à croire aujourd'hui, si les députés sont souciés du développement du Niger, si les députés sont souciés de la paix et la sécurité sur notre territoire, ils ne doivent pas voter.
C'est donc pour faire court à ce débat que le président Mohamed Bazoum a décidé d'engager la responsabilité de son gouvernement devant le Parlement.
Nous voulons trancher ce débat. Vous savez, sur les réseaux sociaux, vous avez beaucoup de gens qui ne comprennent rien, qui empoisonnent le débat, qui disent que notre souveraineté est en jeu. Nous ne sommes pas d'accord, le peuple nigérien n'est pas d'accord, chacun parle au nom du peuple. Moi, j'ai décidé que je vais mettre en jeu la confiance du gouvernement à la représentation nationale. C'est elle l'instance où s'exprime la volonté du peuple et où s'exprime l'opinion du peuple. Et il aura deux effets au cas où ce n'est pas accepté. Le premier ministre démissionne et nous renonçons à cette idée.
Abdulrazak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
Au Bénin, le ramadan se poursuit dans une période marquée par une flambée des prix des produits de première nécessité. Vendeurs et consommateurs n'espèrent pas une amélioration de la situation et comptent sur la providence pour les soulager, nous dit notre correspondante à Cotonou, Ginette Fleur Adandé.
Depuis le samedi 2 avril, les musulmans du Bénin ont entamé le mois sacré du ramadan non sans douleur. Tout est fait plus que d'habitude, surtout au marché de fruits, la surenchère s'est installée. Les vendeuses ont trouvé l'excuse parfaite, l'absence de précipitations et les effets encore tangibles du Covid.
Tomates, maintenant, les gens ne voient pas pour faire les carèmes. Et à cause du carburant, ils ont augmenté le prix.
Avant, on prenait les cocos à 3000, les quarantaines. Maintenant, actuellement, là, si tu pars au marché, les quarantaines, là, c'est 8000. Actuellement, il y a des manques, mais il n'y a pas. D'autres nous vendent 6 000, d'autres nous vendent 5 000. Nous aussi, on dit aux clients de prendre ça à 8 et 200, ils disent que c'est cher.
D'autres pensent que la cherté de certains fruits est aussi une affaire de saison. Le mois de Ramadan coïncide avec une période où les produits demandés ne sont pas disponibles.
Tout est cher, tomates, piments, oignons. Nous-mêmes, nous ne comprenons plus rien. Les gens disent que c'est à cause de la pluie que tout est cher. Le panier de la tomate était à 50 000 francs. Maintenant, c'est à 110 000 francs, voire 80 000 francs. Et pourri au jour le jour, faute de clients.
La légume aussi sont chers parce que avant-hier, la pomme de terre c'était à 13 000 et ils ont augmenté 3 000 et c'est à 16 000 le sac. Peut-être c'est parce qu'ils ont vu que les musulmans vont bien payer, c'est pour ça qu'ils augmentent les prix.
Dans le rang des fidèles, les avis sont partagés. Pendant que certains estiment que la cherté de la vie répond à la volonté d'Allah, d'autres pensent qu'il est important de réussir le jeûne dans les conditions requises.
Cette année, effectivement, les temps sont un peu durs. Par rapport à l'année dernière, cette année vraiment, ça ne va pas. Pour l'année passée, c'est plus mieux que par rapport aujourd'hui.
Mais en tant que musulman, rien ne se passe en dehors de Dieu. C'est parce que Dieu a dit que ça doit se passer comme ça, que ça se passe comme ça.
Pour un croyant, ça c'est un mois béni. Donc un mois béni, les fruits, c'est Dieu qui a donné, quel qu'en soit le prix que les gens vont fixer. Nous, on est obligé de payer ça, de faire notre jeûne, et ça passe bien.
C'est très difficile, je dirais très difficile. On dépense trop. Si on peut diminuer le prix des produits, ça serait facile pour les musulmans de jeûner.
Pourtant, à une semaine du début du Ramadan, le Conseil des ministres a pris des mesures contre la cherté de la vie. Mais certains commerçants continuent de défier les autorités en imposant les prix selon leur volonté, avec comme excuse le conflit russo-ukrainien. Le gouvernement menace de frapper dur pour décourager la surenchère. Le Cotonou, Jeanette Fladondé pour VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Au Togo, les premières pluies pour les semences se font toujours attendre dans la région maritime et des plateaux. Et les agriculteurs s'inquiètent d'autant que les informations météo annoncent une fin précoce de la grande saison de pluie dans les deux régions du pays. De Lomé, notre correspondant Kossi Wousso.
Dans le petit village de Idao, dans la région des plateaux, Boyodi, agriculteur des produits vivriers, scrute le ciel. Comme pour tous les autres jours, aucun gros nuage ne s'accumule à l'horizon. Ça l'inquiète.
Par le passé, déjà à mi-avril, le maïs est déjà à cette hauteur. Mais cette année, tu peux pleuvoir ici, mais quand tu vas à toi, 4 km là où tu as quitté, tu ne verras plus la pluie. Moi qui te parle, actuellement, je n'ai pas encore fait une butte pour planter les ignames. Alors que par le passé, à pareil moment, les ignames ont déjà un feuillage, on a déjà mis les tuteurs, et on pense déjà que dans juin, on va avoir la première tubercule. Mais c'est vraiment inquiétant, c'est vraiment inquiétant.
Un peu plus à l'est, pas loin de la ville d'Atakwame, la nature semble plus clémente avec une fine pluie qui arrose la terre. Toyi a déjà semé sa tête d'igname, mais il attend une régularité pour les autres cultures pour plus d'assurance.
Aujourd'hui, ça a bien plus. On essaie de faire les buts en plus. Bon, pour les ignames, on a déjà enterré les ignames. Bon, il reste seulement pour le maïs, on espère pour la pluie de maïs. On ne sait pas, après ça, on continue ou pas. On prie bien, mais ça, quand on continue au moins comme ça, on va voir si on peut gagner quelque chose.
Selon les services de la météorologie, tout le pays va connaître au cours de la période d'avril, mai et juin, considérée comme la grande saison des pluies, une situation déficitaire. Il est attendu une courte saison des pluies dans la zone du sud de Togo. Aux environs du village de Zangera, dans la région maritime, Boniface fait fi des prévisions météo et continue de préparer son champ.
Avec les informations de météo, moi je n'en tiens pas trop compte. Parce que des fois, il y a prévision de pluie, mais il n'y a pas de pluie. Il y a prévision de soleil, la nature s'assombrit. Nous sommes en avril, les nuages se forment. mais il n'y a pas de pluie. Je ne sais pas comment vraiment l'expliquer, la rarité des pluies ces derniers temps. C'est la nature qui change ou pas, ou faut-il changer la saison des champs, ou tout ça là, on y est en train de réfléchir. Vaut mieux préparer le terrain et espérer la pluie. Donc, je suis en train de faire le sarclage.
Au ministère de l'Agriculture, on conseille aux agriculteurs le choix des plants à cycle court qui peuvent tenir dans cette courte période de saison pluvieuse et résister à la rareté des pluies. Kossi Wosu, Lomé, pour VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington, une fenêtre sur le monde.
Au Gabon, face à 5 autres candidats en lice, Pierre-Alain Mugengi a été réélu par une trentaine de délégués à la tête de la Fédération gabonaise de football, et ce, dans un contexte de crise avec l'actuel épisode des footballeurs professionnels qui sont en grève pour réclamer leurs arriérés de salaire. Précision de notre correspondant à Libreville, Ismaël Obiangze.
Les réactions sont aussi variées que diverses à la suite de la réélection de Pierre-Alain Mugengi à la tête de la Fédération gabonaise de football. Dave Moubele est un journaliste sportif flatté par le bilan de ses deux précédents mandats.
On lui doit aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, une forme d'assise structurelle dans le cadre notamment de la construction ou l'extension du siège de la FEGAFOOT. On peut penser à l'achèvement du projet de football de Bikélé, la mise en place des ligues qui aujourd'hui ont des véritables signaux d'identification.
Des faits qui sont pourtant loin de convaincre Edgar Diemi Dukaga, un autre observateur averti du football gabonais.
Aujourd'hui, dès que nous regardons sur le registre des résultats des différentes équipes à tous les niveaux, à toutes les compétitions nationales et internationales, je pense que chacun peut se faire objectivement une idée de ce bilan.
Pour son retour à la tête de la FEGAFOOT, Pierre-Alain Mugengi décline ses chantiers prioritaires.
Nous avons à cœur de développer davantage le football de notre pays à travers tous les pans qui le constituent, à savoir la formation des cadres, développer les infrastructures et faire de nos compétitions domestique de compétition majeure.
Et dans le même temps, une frange importante de footballeurs professionnels observe un sitting devant le ministère des Sports pour réclamer les arriérés de salaire. Souleymane Gamamba est leur porte-parole.
On a joué longtemps, 3 ans, sans argent. Ils ne savaient même pas comment on nourrissait nos familles. Le ministre ne peut pas reprendre le championnat s'il n'a pas réglé cette dette.
Rodrigue Bekale, président de l'Union gabonaise de la presse sportive, se prononce sur cette grève.
Ce n'est pas le ministère qui doit les joueurs, mais c'est plutôt les présidents des clubs qui doivent s'acquitter de cette dette. C'est une grosse dette. La grève, elle est fondée, elle est légitime. Maintenant, après des séances de réunion organisées par le ministre de la Jeunesse et des Sports qui représente l'État, tout en reconnaissant l'existence de la dette, le ministre a donné l'occasion de mettre en place une structure pour faire de l'audit afin d'identifier qui a raison, qui a tort ou bien qui doit à qui.
La reprise des championnats de football du Gabon est annoncée pour le 14 mai prochain, mais toujours aucune date en perspective pour le règlement de la dette sociale des principaux acteurs du football. Elle est estimée à plus d'un milliard de francs CFA. Libreville, Ismaël Obiangze pour VOA Afrique.
Participez à notre magazine interactif à votre avis du lundi au vendredi à partir de 18h CU sur VOA Afrique. Donnez votre opinion sur tous les sujets sans tabou, politique, société, culture et bien plus encore. Vous pouvez même suggérer des thèmes sur notre page Facebook. À votre avis, l'occasion de vous exprimer librement du lundi au vendredi à partir de 18h CU sur VOA Afrique et VOA Afrique. À votre avis, c'est votre rendez-vous interactif au quotidien sur VOA Afrique.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde Aujourd'hui VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Vous étiez en compagnie d'Idrissa Sebulia et de Nani Talani. Michel Joseph était à la mise en onde et Kelvin Fowler à la console. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.